Voilà, bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous, effectivement. Alors, c'est un peu particulier, on est d'accord. On est dans un contexte comme cela. Et puis, pour la concentration, même pour moi, c'est pas toujours évident, parce qu'on se projette, on imagine qu'il y a des personnes et on sait qu'ils y sont, mais on les voit pas. Voilà, en tout cas, que le Seigneur nous renouvelle. Alors, tu as dit, l'essentiel, je vais pas m'étaler trop parce que je veux garder du temps pour la parole, mais, je suis dans ma 33e année de ministère à plein temps et j'ai fini ma 20e année d'itinérant. Alors, j'étais pasteur sédentaire pendant quelques années avant d'être itinérant. Sinon, que dire, je suis papa de 4 enfants et grand-père de 4 petits-enfants, donc c'est facile à retenir, c'est le 4-4, hein, ça roule bien. Je suis originaire de Saint-Jean-du-Gard dans les Cévennes. Et je suis au service des églises, des associations chrétiennes pour de l'enseignement biblique sur beaucoup de thématiques par la grâce de Dieu. Voilà. Et voilà. Aujourd'hui, on en a une qui est un peu particulière. On va essayer de la partager ensemble. Voilà. Je vous invite à la prière pour commencer nos études. Seigneur notre Dieu, c'est encore une joie et un privilège d'être ici, de partager les textes bibliques, d'essayer de voir, Seigneur, notre société, notre actualité. En tout cas, tu veux nous conduire, Seigneur, et nous voulons nous laisser conduire. Et si nous ne comprenons pas les choses, eh bien, nous te faisons confiance parce que toi, Seigneur, tu sais et tu conduis ce monde là où tu as décidé qu'il doit aller. Et, Seigneur, nous sommes confiants parce que tu es fidèle. Fidèle à tes promesses. Oui, Seigneur, bénis-nous ensemble et fortifie-nous à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors on peut dire, quand on regarde notre société, que le monde et les esprits sont relativement inquiets et aussi désorientés par l'évolution de notre situation mondiale, et en particulier, bien sûr, depuis le début de la pandémie du Covid-19, je ne vais pas, peut-être forcément cet après-midi, m'y arrêter. Ce sera plutôt pour demain que je donnerai quelques informations que j'ai sur le cœur à ce sujet, que je les partagerai. Comment on peut s'interroger, comment apprécier sainement, sereinement le présent et se préparer aussi pour l'avenir? La parole de Dieu nous donne des directives sur le sujet. Faut-il trembler quand on voit ce qu'on voit, est-ce qu'on entend ce qu'on entend, ou se réjouir par rapport aux promesses que la Bible nous donne? Nous marchons selon l'Écriture à grands pas vers ce que nous pouvons dire le grand dénouement, et c'est une période dont nous savons être difficile et qui le sera de plus en plus. Je dis souvent, je ne suis pas optimiste, je suis un pessimiste confiant. Vous voyez la différence entre les deux. Voilà, mais je crois qu'on ne peut pas être, à mon avis, autrement que face à l'Écriture. L'Écriture qui nous dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Je voudrais citer un théologien qui s'appelait René Pache, qui a écrit dans une revue où il avait intitulé l'article « Les événements actuels annoncent-ils le retour de Christ ?» et c'était dans les années 40, hein, 50. Il dit « La civilisation, la science, la politique, la religion, entre guillemets même, ne nous ont pas apporté le bonheur définitif et universel. En plein territoire occupé par l'ennemi de nos vies, nous n'avons plus d'autres espoirs que le débarquement victorieux de celui qui doit nous apporter du ciel la libération totale. » Et j'espère que nous croyons à cela de tout notre cœur et que nous l'attendons. C'est pourquoi le but de nos réflexions ce week-end, que j'ai ciblé bien évidemment, tant le sujet est vaste, serviront, je l'espère, simplement à nous donner une intuition toujours plus nette et affûtée du fait que la parole de Dieu est en route, est en marche, et que l'actualité pourrait bien nous la révéler dans différents domaines. L'apôtre Paul, d'ailleurs, nous rend attentifs lorsqu'il écrit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Le mot d'ailleurs qu'il emploie « temps » est la traduction du terme « kairos » qui signifie « événement ». Vous savez en quel événement nous sommes, dit l'apôtre Paul. Donc nous pouvons les discerner, ou pas, mais en tout cas, on pourra en avoir la possibilité. Et savoir en quel événement nous sommes, tel que Paul nous y invite, c'est prendre le temps d'ausculter ce qui se passe autour de nous et lire l'Écriture sans se relâcher, de manière à emmagasiner les informations de l'Écriture et prendre les informations qui sont autour de nous de façon à ce que ce mariage se fasse et les révélations, ou en tout cas les explications, pourraient peut-être alors venir à notre esprit. Il y a un texte qui m'est venu à l'esprit dans le prophète Ésaïe, au chapitre 21, « Oracle sur Douma, c'est-à-dire Édom, on me crie de Séir, sentinelle, que dis-tu de la nuit ? Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? La sentinelle répond, « Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Revenez encore si vous voulez interroger, sous-entendu. » Voyez ? Eh bien, c'est ce que nous voulons faire, c'est ce que je fais, enfin, que j'essaie de faire le plus régulièrement possible, interroger à la fois l'Écriture et en même temps prendre les informations dans le domaine de l'eschatologie, c'est-à-dire du retour de Jésus et des signes des temps, pour pouvoir vraiment avoir le plus d'informations et les mettre ensemble pour savoir en quel temps nous sommes. Alors, à propos d'une liste que Jésus, et je ne vais pas m'y arrêter, a donné en Matthieu 24, et je vous invite à la relire dans la semaine qui viendra, je cite encore le théologien René Pache, qui a dit ceci, à propos des signes de Jésus, « Il est donc non seulement permis de les connaître, mais c'est un devoir pour tout chrétien de les étudier. Si nous ne voulons pas être surpris par le retour de Jésus, même si nous ne pouvons pas fixer des dates et nous n'en avons pas à le faire, comme les gens du monde, il faut absolument que nous tenions compte de ces avertissements. Plusieurs de ces signes, dans leur essence, sont de tous les temps. Il y a toujours eu des guerres, des famines, des pestes, des tremblements de terre. Mais ce qui doit constituer l'annonce de la fin, c'est d'une part l'accroissement considérable de chacun de ces signes, et d'autre part, leur réalisation absolument simultanée. » Et c'est ce qui peut nous donner cette impression aujourd'hui dans ce monde, parce que nous avons des connaissances grâce aux médias aussi, et il faut le préciser, qu'on a une abondance d'informations qui semble être partout en même temps actuelle et être vécue sur la planète entière. Mais si nous sommes encouragés à étudier ces choses, nous devons toujours avoir à l'esprit que cela implique bien évidemment quelques risques. Mais ces risques, en essayant d'avancer, de comprendre, ne doivent pas, pour autant, paralyser nos réflexions et faire comme si ces textes concernant le retour de Jésus n'existaient pas et les balayer d'un revers de manche, comme peut-être certains pourraient faire pour justement se dire « bon, c'est pas grave, ils sont là, mais qu'importe, on n'essaie pas de les étudier ni d'y réfléchir ». Mon but ce week-end, c'est d'y réfléchir avec vous. Et vous allez voir, il y a des choses qui vont peut-être vous étonner, mais en même temps, c'est un partage, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ainsi que je suis cet après-midi et ce week-end. Donc c'est pourquoi en lisant et en étudiant la parole de Dieu, et en particulier des textes à venir, la prophétie, il faut nous garder, ou il faut toujours rester prudent, attentif et humble. C'est vraiment quelque chose d'important, afin de ne pas tomber dans le piège de vouloir tout comprendre à tout prix. Il y a plein de choses que je ne comprends pas, et bien c'est comme ça. Heureusement d'ailleurs, comme ça permet de réfléchir et d'avancer. Il y a ce texte qui nous dit aussi dans le livre du Deutéronome, « Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, pour que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Donc Dieu cache des choses volontairement, encore aujourd'hui, n'avons pas forcément, si nous ne savons pas, à les chercher. Alors, à travers les nombreux textes bibliques qui mentionnent les signes des temps de la fin, j'ai dû faire, bien sûr, des choix, et je vais m'arrêter cet après-midi sur un épisode de l'Ancien Testament que j'ai intitulé « Quand le rêve devient réalité ». Je suis cet après-midi et demain après-midi sur le registre que je pourrais appeler de l'examen de texte et que j'examine et ou que j'essaie d'examiner à la lumière de l'actualité. Demain matin, je serai plus sur le registre de l'exhortation pour nous encourager aussi, pour nous voilà, je serai pas dans l'examen, mais voilà, je pense que vous comprenez la différence entre ces deux situations et ces deux façons d'aborder les textes. Mais donc, de quel rêve s'agit-il lorsque je donne ce titre? Eh bien, il s'agit du rêve du roi Nebuchadnezzar qui a nécessité l'intervention d'un prophète, le prophète Daniel. Ce dernier fait partie donc des exilés à Babylone et le roi Nebuchadnezzar a une vision dont il ne se souvient plus en se réveillant le matin et, bien sûr, en faisant venir ses sages, ses devins, il essaie de leur dire et il leur dit « Dites-moi ce que j'ai rêvé cette nuit et donnez-moi l'explication ». Ils ont été un peu étonnés, n'est-ce pas? Et ils disent, en essayant de gagner du temps, « Mais dis-nous ce que tu as rêvé et puis on te dira ce que ça veut dire. Oh, » oui, entendu, vous allez me dire ce que vous avez envie de dire. Hein? Non, non, si vous me dites ce que j'ai rêvé, ce que je ne m'en souviens pas, alors je saurai que l'explication sera juste. Il n'y arrive pas. Et c'est Daniel, alors je passe les détails, vous relirez un petit peu les textes, mais je ne veux pas perdre de temps sur ça, mais c'est Daniel qui est appelé un petit peu devant le roi, parce qu'on a su qu'il avait déjà fait cela, compris un rêve, ou en tout cas dit un rêve à quelqu'un et l'interprété. Quel était ce rêve? Alors, ce que demande le roi est un secret, dit Daniel, que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite, et celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aurait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants, mais c'est afin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer et ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble. Ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les a emportés, on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Voilà quel est le rêve. Nous en dirons l'explication devant le roi. Roi, tu es roi des rois, parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous ta domination où qu'elles habitent les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux, et il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. Après toi surgira un autre royaume, inférieur au tien, puis un troisième royaume qui sera en bronze, qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Tout comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. Tu as vu les pieds et les orteils en partie en argile de potier et en partie de fer. Eh bien, de même, ce royaume sera divisé, mais il aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé à l'argile. Les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélangé à l'argile parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre. De même qu'on ne peut allier le fer et l'argile. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination de notre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. Voilà, j'ai pas fait l'économie du texte parce qu'il nous met bien dans le cadre de ce que nous allons maintenant essayer de voir, mais vous allez voir, je vais remettre ces textes un petit peu au fur et à mesure à votre visuel pour poursuivre. Vous noterez tout d'abord que Dieu dévoile son plan à un homme païen, Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et il dévoile à cet homme, à travers ce rêve, les choses qui vont arriver jusqu'au temps de la fin. On va y venir. Et en fait, lorsque Daniel est venu et vient sur place, il est dans une humilité incroyable. Il dit pas, voyez, je suis moi le devin de Dieu, je vais te dire. Mais il dit, c'est Dieu qui veut te parler et qui m'a parlé pour que je te parle. Il y a une humilité ici de la part de Daniel que je voudrais souligner simplement et mettre en avant. Donc le Seigneur révèle à Daniel que quatre grandes puissances marqueront la face du monde et serviront de signe au déroulement du plan de Dieu. Dans l'idée, vous savez en quel temps vous êtes, en quel événement vous êtes. Alors il est facile de les nommer aujourd'hui, puisque l'histoire avec un grand H a déjà eu lieu et ces empires sont bel et bien apparus dans cet ordre. Babylone, la tête d'or, le roi Nebuchadnezzar, suivi des Mèdes et des Perses qui ont anéanti Babylone, suivi de la Grèce avec la conquête d'Alexandre le Grand et suivi de Rome avec Jules César et tous les empereurs qui ont suivi. On peut dire d'ailleurs que le conte à rebours prophétique des temps de la fin a été déclenché en 605 avant Jésus-Christ, au moment où Nebuchadnezzar reçoit cette révélation. Moi, je le consens et je le conçois de cette manière-là. Et je n'explique pas et je n'ai pas à expliquer pourquoi Nebuchadnezzar est celui que Dieu a choisi pour déclencher le temps des nations et le conte à rebours prophétique. Mais ce qui caractérise la fin de ce temps prophétique annoncé, c'est l'apparition d'un cinquième royaume qui aura la particularité, contrairement d'ailleurs aux quatre précédents, de ne jamais être détruit. Le cinquième royaume ne fait pas partie de la statue, n'est-ce pas? Il vient de l'extérieur. Il vient du ciel, comme nous l'avons lu, et il pulvérise, en fait, les royaumes qui le précèdent. Et il va, en fait, pulvériser et frapper celui qui sera avant lui. Cinq, le quatrième. Les autres royaumes ont été matériellement, historiquement détruits, mais ce qui montre que les peuples dans leur ensemble seront pulvérisés par ce cinquième royaume qui apparaîtra. Puisque nous n'avons pas encore vu apparaître et s'installer le cinquième royaume, il est évident que le monde d'aujourd'hui est toujours dans le quatrième royaume. Celui-ci est celui de Rome. Il nous faut donc essayer de discerner si ce royaume, Rome, est bien présent aujourd'hui encore, et si oui, sous quelle forme. Pourquoi? Eh bien parce que il n'y a pas de quatrième royaume bis, terre. Il y a le quatrième royaume, comme il y a eu le troisième, le deuxième et le premier. Et c'est ainsi que la suite est logique. Donc le quatrième, normalement, doit être celui qui va précéder le royaume de Dieu. Et nous pouvons affirmer que le cinquième royaume est le royaume de Dieu, puisqu'il nous est dit qu'il ne sera jamais détruit. Et nous savons que le royaume de Dieu est un royaume éternel. Comment discerner, et peut-on discerner ce quatrième royaume, celui de Rome ? Je me rappelle, il y a exactement 19 ans, c'était en 2002, avoir entendu notre frère Pierre Molinengo, je ne sais pas s'il est derrière son ordinateur, peut-être, mais qui, au Beatenberg, j'étais orateur aussi avec lui, traitait sur cette partie du monde un petit peu, et nous avait parlé un petit peu de cette statue, et il nous expliquait alors comment l'histoire montre clairement que ce quatrième royaume semble, posséder une faculté, et il donnait cette image d'une racine, n'est-ce pas, ou d'un arbre qui a des racines, et ces racines, eh bien, elles sortent, elles renaissent régulièrement. Vous avez déjà eu ça dans votre jardin, peut-être, hein, c'est ce qui se ramifie, des ramifications qu'on ne voit pas, on en coupe une, et puis il en sort une autre un petit peu ailleurs. Des racines qui sortent, comme justement pour attendre l'arrivée du cinquième royaume. Mais c'est toujours le quatrième royaume, en fait, qui, par des racines successives, se manifeste, se montre, mais attend simplement l'arrivée de ce dernier. Donc cette image de la racine, qui est enfouie dans le sol, est intéressante, et j'ai beaucoup apprécié ce qu'il nous disait à ce sujet. L'origine de Rome donne lieu à quelques controverses d'ailleurs et légendes. Mais à ses débuts, quelques siècles avant Jésus-Christ, Rome est donc une monarchie. Lorsqu'elle s'empare de la Judée en 63 avant Jésus-Christ, elle connaît un régime de république, mais elle est déjà un empire. Le premier empereur, Auguste, est proclamé en 31 avant Jésus-Christ. C'est donc cette Rome impériale, qui persécute d'ailleurs les premiers chrétiens, qui détruira Jérusalem en son temps, en 70 après Jésus-Christ. Prophétie que Jésus avait annoncée lorsqu'il a dit à ses disciples « Des jours viendront, enfin, en parlant de Jérusalem, pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront, te serreront de tous côtés, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. » Et lorsque les disciples, d'ailleurs, sont, à un moment donné, sortis du temple avec Jésus, ils ont fait remarquer à Jésus ceci, voici ce qu'ils disent, « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, Matthieu 24, verset 1, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Alors les disciples vinrent en particulier lui poser cette question, « Mais dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et c'est après quoi que nous avons la liste des signes des temps que Jésus développe et donne à ses disciples. Donc la Rome impériale continue son existence jusque sous le règne de Dioclétien qui commence à diviser l'Empire. Apparaissent alors l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, qui semble bien correspondre aux deux jambes de la statue de Nebuchadnezzar. Deux racines qui sont ensemble, représentant ces jambes, en tout cas le haut des jambes en particulier. Alors du côté oriental, l'Empire va perdurer jusqu'à la chute de Constantinople en 1475, mais du côté occidental, dès 476, après les tentatives de réunification, comme sous Constantin en particulier, l'Empire va être divisé de façon définitive. Mais l'histoire n'en a pas fini avec ce côté occidental. Car des événements vont se succéder durant la période du Moyen-Âge et après. En effet, Pépin le Bref restaure un pouvoir stable en accord avec l'Église de Rome. Son fils, Charlemagne, établit un pouvoir politique par des conquêtes territoriales. En l'an 800, le 25 décembre précisément, il est couronné par un pape, Léon III. On attribue cet événement à la naissance du Saint-Empire romain, racine de Rome. Il est saint. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance qui est faite entre l'État et l'Église. Cette Église, d'ailleurs, qui, entre le XIIe et le XVIe siècle, perdra petit à petit de son influence et de son emprise sur les affaires politiques de ces pays qui vont se mettre sous la coupe, entre guillemets, de ces rois. Ensuite, le titre d'empereur d'Occident passe à un certain Othon le Grand, roi de Germanie, qui se fait couronner à Rome par le pape et instaure le Saint-Empire romain germanique. Cette alliance va durer pratiquement 1000 ans. Et les rois du Saint-Empire romain étaient donc d'Europe, le pape généralement était de Rome. Le Saint-Empire romain germanique ne disparaîtra qu'en 1806, sous les coups d'un autre envahisseur venu de l'Ouest, Napoléon Ier, dont on a fêté le bicentenaire, enfin fêté, c'est peut-être un bien grand mot, rappelé plutôt le bicentenaire de sa mort. Napoléon Ier se fera couronner empereur, comme d'ailleurs l'avait été Charlemagne. Napoléon rêvait de réunifier l'Europe et il était fasciné par Rome. Et en particulier, l'arc de triomphe qu'il fait construire pour ses victoires, n'est-ce pas, enfin, en tout cas pour ses conquêtes, était aussi dans cet esprit-là de Rome, pour montrer quelque chose qui vient de là. Quelques années plus tard, naît un fils à Napoléon, François-Charles-Joseph, qui se voit alors être constituellement paré du titre de prince impérial, mais aussi celui de roi de Rome. Toujours ce lien avec Rome, ces racines qui sont là. L'empire napoléonien ne va pas durer longtemps, le rejeton est coupé, et du côté de l'Allemagne, un autre rejeton va sortir. En 1971, à Versailles, Guillaume Ier fonde l'Empire allemand. Ce deuxième Reich, donc empire en allemand, succède au Saint-Empire romain germanique, fondé par Othon le Grand et aboli par Napoléon Ier, après mille ans d'existence. Mais Rome est toujours là, prêt à surgir. Et c'est ce qui semble bien se passer après le culte du Troisième Reich, dirigé par Hitler, qui prétendait que son empire, son royaume, allait durer 1000 ans. Un peu, peut-être, pour rappeler les 1000 ans d'un de ses ancêtres, Othon le Grand, mais on peut discerner aussi, je le vois un peu comme ça, l'usurpation de Satan lui-même sur des événements qu'il connaît, mais destiné cette fois au Fils de Dieu, qui sera lui glorifié et qui règnera durant 1000 ans. C'est ainsi qu'en 1950, après le Troisième Reich, et sa chute, nous l'avons bien sûr vu, connu, propose de créer la Fédération européenne. Et le traité qui va diriger cela, régler tout cela, est signé à Rome en 1957. Voilà donc une racine nouvelle qui apparaît. Cette alliance a été, on pourrait dire, le premier traité postulant, espérant, une unique nation en Europe, signée par l'ensemble des pays du continent, sauf à ce moment-là l'Angleterre et le Vatican. L'Angleterre, maintenant, en est ressortie, mais au départ, elle n'y était pas non plus. Alors, selon ce calendrier de l'histoire que j'ai un petit peu rappelé, le quatrième royaume, Rome, existe bel et bien, mais sous une autre entité, laquelle pourrait bien se voir aujourd'hui à travers l'Union européenne. Si c'est le cas, l'Europe pourrait alors bien jouer les tout premiers rôles et être une pièce maîtresse dans le processus des temps de la fin. Pourquoi? Je n'ai pas de réponse. Mais je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, que Babylone a été la tête d'or, Nebuchadnezzar, souveraineté de Dieu qui lui a donné de comprendre, ou en tout cas d'avoir ce déclic, ce départ. Et la fin, c'est Rome. De toute façon, ce sera Rome. Et ce ne sera pas un autre pays qui va attendre le cinquième royaume. Dieu sait ce qu'il fait. Le compte à rebours prophétique était lancé. Et cela nous envoie bien évidemment à être très humbles, même dans ses réflexions, face justement à la souveraineté de Dieu, qui fait vraiment, bien évidemment, ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, qui nous a donné des textes que nous avons sous les yeux pour que nous y réfléchissions. René Pache, je l'ai cité tout à l'heure, pour que nous essayions, ma foi, de tâtonner, de discerner en quel temps nous sommes. On peut se tromper, on peut exagérer, on peut pas aller assez loin, je ne sais ce qu'il faut dire, mais on peut y réfléchir et on peut ensemble donner quelques points de repère. À ce sujet, je rappelle ce que l'apôtre Paul écrit aux Romains, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu, même celles qui nous paraissent inconcevables, elles viennent de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Le Seigneur, bien évidemment, dès avant la fondation du monde, connaissait tout ce qui allait se passer. Et il place des pions sur l'échiquier. Il met tel ou tel en place et en pouvoir. Même si c'est quelqu'un qui lui est contraire, même si c'est quelqu'un qui même fait le jeu du diable, c'est pour amener son plan final. C'est pour amener, et je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais d'un pessimisme confiant, le chaos qui va venir, qui doit régner, hein, avec Satan qui sera au milieu et qui aura l'impression peut-être de gagner la partie, mais in fine c'est Dieu qui le mettra en échec, ça nous le savons. Donc toute autorité est établie par Dieu. Et cette action souveraine que les chefs des nations ne soupçonnent peut-être pas ou plus, est bien rendu par une expression d'un psaume qui pourrait être aussi messianique et prophétique. Pourquoi le psaume 2 ? Pourquoi ce tumulte parmi les nations ? Ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint ? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Et l'expression « le Seigneur rit » laisse entendre que quelque part, il voit qu'ils essaient de prendre en main les situations, de gérer comme ils peuvent les choses, mais en fait, c'est Dieu qui le gère lui-même, mais ils ne s'en rendent pas compte, en fait. Hein. Et c'est un petit peu la situation que l'on vit depuis toujours, et qui sera peut-être plus grave encore lorsque les temps vont s'avancer. Dieu règne sur les nations, dira ce psaume. Dieu a pour siège son saint trône. En fait, les chefs d'État et de gouvernement ne font qu'exécuter le plan de Dieu, plan qui converge vers la destruction de ce monde et son jugement. C'est quelque chose qu'il faut absolument garder à l'esprit. Vous savez, dans l'Écriture, Paul, à 1 Corinthiens 15, lorsqu'il parle de la résurrection de Jésus, dira « Si c'est dans ce monde que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les êtres vivants. Hein? » Mais Christ est ressuscité, c'est-à-dire qu'il nous a montré quelque chose, il nous a préparé à quelque chose d'autre. Nous ne sommes pas attachés à ce monde, et c'est pourquoi il peut partir en cacahuète, hein, il peut partir à la dérive. Cela, je ne dis pas que ça va nous déranger, nous y sommes, mais cela ne doit pas nous inquiéter. Dieu met ses bornes et il permet qu'elles s'accomplissent. Mais revenons maintenant au rêve de la statue et examinons d'un peu plus près la description que Daniel fait, justement, du quatrième empire. Parce que ce quatrième empire, il le développe, alors que les trois premiers, il ne fait que les nommer. Je rappelle ce texte pour que nous revenions, et cela à notre mémoire. Il y aura un quatrième royaume solide comme du fer, Le fer pulvérise et écrase tout, tout comme le fer brise tout. Il pulvérisera et écrasera les autres. Tu as vu les pieds et les orteils en partie en argile de potier et en partie en fer. De même, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile. Les doigts des pieds étaient donc en partie en fer et en partie en argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélangé à l'argile parce qu'ils feront des alliances humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier le fer à l'argile. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir... Donc là, c'est la suite de la fin du texte, je ne vais pas la nommer, on l'a déjà lu. Donc voyez la description que fait Daniel de ce quatrième empire. Daniel, en fait, divise ce quatrième royaume en deux parties. Les jambes et les pieds. Vous noterez que les jambes, le texte le dit clairement, sont en fer, tandis que les pieds sont un mélange de fer et d'argile. C'est semble que l'on puisse identifier, comme je l'ai signalé tout à l'heure, les deux jambes comme étant ces deux empires passés, romains, Occident et Orient. Mais Daniel focalise l'attention sur les pieds, lesquels sont donc une prolongation évidente des deux jambes. Les pieds tiennent aux jambes. Et en particulier, par le fer qui leur est commun. Le fer suit, mais il se rajoute l'argile. Deux matériaux qui ne s'allient pas, qui ne peuvent pas se mélanger. Et si vous dites à un maçon de construire avec du fer et de l'argile, il va vous dire « Non, je ne le fais pas, ça ne tiendra pas. » Et vous pouvez insister lui disant « C'est mon problème, ça ne tient pas, je veux que tu le fasses. » Il pourra le faire. Comme ces peuples qui, peut-être inconsciemment, se mettent ensemble, en sachant que ce n'est pas possible, mais ils le font quand même. Même s'ils peuvent imaginer que ce sera difficile. Tant pis, on n'a pas le choix. Ou on prend cette option-là. Donc cet empire, dit Daniel, sera à la fois fort et faible. Cette dualité, Daniel l'interprète par des alliances humaines. Tu as vu, dit-il, le fer mélangé à l'argile, parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas unis l'un à l'autre. De même qu'on ne peut pas allier le fer à l'argile. Des alliances. Des alliances qui font bien sur le papier, qui sont une force, mais qui en réalité ne peuvent pas faire l'unité, d'où sa faiblesse, semble-t-il. La Rome d'aujourd'hui, si c'est l'Europe, tel un rejeton sorti une fois de plus, est en parfaite adéquation à cette description. Une Europe constituée d'alliances de pays, depuis 1957, à la fois fort et faible. Fort économiquement, ou fort matériellement, ou fort politique, ou militairement, mais à la fois, certains sont faibles. 500 millions d'habitants aujourd'hui comprenant l'Europe, ce qui est la plus grande concentration humaine sur la planète, avec depuis 2002 l'Union européenne, par l'euro. Charlemagne avait l'écu, qui était unique dans tout son royaume, et qui était déjà l'ancienne Europe, sous son couvert et sous son autorité. Durant les deux premiers millénaires après Jésus-Christ, non seulement Rome s'est politiquement transformée, mais elle a été en même temps sous l'influence judéo-chrétienne. Et ça, nous devons absolument en tenir compte. Et ce passé judéo-chrétien de la Rome d'aujourd'hui, l'Europe, se voit dans son drapeau même, tel que nous l'avons aujourd'hui. Dans l'Apocalypse, au chapitre 12, il nous est dit, et c'est Jean qui a cette vision, Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Voilà ce que semble voir Jean. Au début des années 90, un haut fonctionnaire du Conseil européen, qui s'appelait Arsène Hens, a confessé un lourd secret qu'il portait depuis 30 ans. En 1955, donc 2 années avant le traité de Rome officiel, mais il y avait déjà des pourparlers, il a été chargé de proposer un dessin pour le futur drapeau de l'Europe, qui allait être constitué. Inspiré, dit-il, par Dieu, c'est ce qu'il affirme, il a expliqué à un ami prêtre intégriste qu'il connaissait qu'il a conçu ce drapeau bleu sur lequel se détachent les 12 étoiles de la médaille miraculeuse représentant Marie au milieu d'étoiles. Et comme l'Europe est constituée de différents mouvements religieux, c'est quelque chose qui n'a pas été signalé dès le départ, l'inspiration. Car sinon, ça aurait posé un problème pour ceux qui ne sont pas dans le culte marial, entre autres, et qui auraient vu peut-être là une idolâtrie et quelque chose à rejeter. D'où le silence. Mais cette statue que Jean voit existe en Slovaquie, où l'on voit cette femme, je reprends le texte, il est marqué sur le vidéo, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. On a vraiment l'impression que Jean a été transporté, n'est-ce pas, 2000 ans plus tard, au pied de cette statue, qui sera construite en Slovaquie. Dans le débat politique national d'octobre 2017, ça date un peu, mais peut-être que vous l'avez entendu, je ne sais pas, un député voyait dans le drapeau européen un symbole religieux et disait dans l'Assemblée, c'est pas normal, dans notre pays laïque, qu'est la France, notre Dieu laïque, n'est-ce pas, de la République, que le drapeau soit une représentation religieuse parce que nous sommes dans l'Europe en tant que Français. Et il a raison. C'est bel et bien un symbole religieux. Ces 12 étoiles en particulier représentant ce que Hens avait voulu mettre sur ce drapeau. Alors la veuve de l'artiste a confirmé que son mari avait beaucoup de dévotion sur l'Église catholique romaine, et Marie en particulier, mais qu'il fallait bien évidemment être très discret, ne serait-ce que pour pas offenser les Juifs et les protestants, et les autres aussi. Dans le texte adopté par les parlementaires, il était écrit « Sur le fond bleu du ciel d'Occident » et voyez, nous sommes dans la partie occidentale de la statue, le pied en particulier, vous allez voir tout à l'heure pourquoi je précise, « Les étoiles figurant les peuples d'Europe forment le cercle en forme d'union, elles sont au nombre de 12, symbole de la perfection et de la plénitude. » Et là, quand j'ai lu la première fois ce texte, cette citation, qui a été donnée en 57, quand le drapeau a été accordé, je me suis dit, mais quel orgueil! Quel orgueil derrière ces termes de perfection et de plénitude! Ces 12 étoiles, bien sûr, peuvent représenter les 12 disciples, je le sais en tout cas, quand cette statue a été faite, qu'importe! Mais quel orgueil de penser que ça y est, cette fois, nous créons quelque chose qui va perdurer, qui est solide. Des alliances. Solides sur le papier. Mais ô combien fragiles, en réalité. Quand nous avons vu en 2008, en particulier, les problèmes économiques qu'il y a eu, et que un des maillons faibles de l'Europe, comme la Grèce ou l'Italie à l'époque, qui était mise sous couvert ou tutelle économique, n'est-ce pas, pouvait faire capoter toute l'Europe entière si elle fondait le plomb, comme on dit. Oui, un pays fragile, au milieu d'autres pays forts. comme peut-être l'Allemagne ou la France, qui sont peu parfois prétentieux, mais qui sont forts par rapport à d'autres, bien évidemment. Nous le comprenons. Il est aussi donc une réalité ou une autre réalité, à savoir que depuis des décennies, l'Europe, petit à petit, semble bien exclure Dieu, alors qu'elle a un passé judéo-chrétien, hein, en voulant renier ce passé-là. Du passé, faisons table rase, ne l'avons-nous pas entendu, ou vous qui êtes plus anciens, ou bien Dieu est mort. Société aujourd'hui, française en particulier, mais un peu aussi dans d'autres pays d'Europe, où le christianisme, dans son essence même, n'a plus cote, où la parole de Dieu n'est plus la valeur. On fait ce qu'on veut, comme on veut. Je pense à ce texte de 2 Pierre au chapitre 2 qui nous dit « Après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elles. Leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie, à peine lavée, s'est vautrée dans le bourbier. » Et on a l'impression, quand on voit avec le recul de l'histoire et le présent d'aujourd'hui, comment les peuples d'Europe et ceux qui sont au-devant, et je parle de la France parce qu'on n'est pas en reste, dans des lois iniques, contraires à l'Écriture, favorisant l'immoralité, la débauche et toutes sortes de choses de ce style. On voit qu'ils se sont vautrés quelque part, ils ont renié ce passé et leur condition, dit le texte, est pire que celle d'avant. Un haut fonctionnaire d'État, en 2020, un certain Xavier Patier, a dit ou a écrit « Le génie de la France est d'avoir su bâtir une civilisation sur le respect de l'autre, sur le respect de la femme, sur le respect des convictions. Ce sont ses racines chrétiennes qui lui ont donné cette exigence, traduite dans l'idéal laïque et formulée dans notre Constitution. » Mais ces choses-là sont bien en train de changer, ou en tout cas dans beaucoup d'autres domaines, justement parce que le christianisme est mis de côté. Ceci dit, cette image d'Épinal éternie lorsqu'on se penche sur l'histoire de l'Église. Et là, je voudrais citer notre frère Pierre Molinengo, qui a dit « Cette civilisation judéo-chrétienne a massacré des Juifs au Moyen-Âge au nom de Jésus. » Elle a massacré ses frères, les orthodoxes, au nom de Jésus. Elle a converti par la force des nations. Elle fait brûler sur des bûchers les vrais témoins de Jésus. Et celui qui voulait bâtir un royaume de 1000 ans a tout simplement exterminé dans les fours crématoires 6 millions d'enfants d'Israël. Et le ceinturon de ces hommes qui les exterminaient portait « God meet us », Dieu avec nous. Avec Dieu, on va exterminer le peuple de Dieu. Voilà ce qu'était, quelque part, d'une certaine manière, cette Europe ancienne, judéo-chrétienne. Mais, bien sûr, elle a aussi apporté ses bonnes choses, je l'ai signalé. Et, entre autres, la fameuse réforme, hein, qui a permis à aller plus loin dans la crainte de Dieu et le retour à l'Écriture, hein, les réformateurs avec leur devise, hein, par la grâce seule, par la foi seule, par l'Écriture seule, qui ont donné des réveils en Europe, hein, bien évidemment, dont nous sommes aussi aujourd'hui des conséquences, hein, et ça c'est vraiment important et intéressant. Donc il est un fait historique que l'Europe est en partie, et en particulier trois pays qui la composent aujourd'hui, l'Allemagne, la France et l'Italie, a bel et bien joué un rôle majeur contre le peuple de Dieu lors de la Seconde Guerre mondiale en particulier. Je vous rappelle cette épisode de notre pays, 2 mois après avoir été élu président de la République, Jacques Chirac, dans un discours aux Veldives, prononcé le 16 juillet 1995, reconnaît les responsabilités de la France dans la déportation et l'anéantissement de près de 76 000 juifs qui y vivaient. Il a dit « Il est dans la vie d'une nation des moments qui blessent la mémoire et l'idée que l'on se fait de son pays. Ces moments, il est difficile de les évoquer parce que l'on ne sait pas toujours trouver les mots justes pour rappeler l'horreur, pour dire le chagrin de celles et de ceux qui ont vécu la tragédie. Celles et ceux qui sont marqués à jamais dans leur âme et dans leur chair par le souvenir de ces journées de larmes et de honte. Il est difficile de les évoquer aussi parce que ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions, passé judéo-chrétien en particulier. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par les Français, par l'État français. » Et il a fallu quand même du courage pour dire cela à ce moment-là. Je reviendrai un petit peu sur ces faits demain après-midi lorsque nous, voilà, mais un petit peu, j'en poserai encore quelques points sur cela. Mais ce texte, ou en tout cas ce que je viens de dire, me permet, ou en tout cas m'amène à penser à ce texte qui vient en écho de la parole de Zacharie, où il nous est dit « Fuyez, fuyez du pays du septentrion », et c'est Zacharie qui s'adresse à Israël, à son peuple, hein. « Car je vous ai dispersé aux quatre vents des cieux. » Et la dispersion s'est faite en 70 après Jésus-Christ, que nous avons nommé tout à l'heure, hein, sous l'impulsion de Rome, hein, dit l'Éternel. Mais ils sont revenus, bien sûr, hein, en 48. Je ne vais pas en parler ce week-end, mais c'est un fait important. « Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. Le Seigneur rappelle les exilés, voici je lève ma main contre elles, donc ces nations hein, qui ont touché à son peuple, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. » On a là un texte qui est prophétique hein, et qui précise une chose, c'est que tout peuple qui touche au peuple de Dieu, touche à Dieu lui-même. Et cela ne peut rester impuni. Et un jour, la justice de Dieu se révélera. Mais revenons, pour terminer encore un moment, sur notre statut. Nous avons vu que Rome se divisait en deux, les jambes et les pieds. Les jambes pouvaient bien correspondre hein, à ces deux empires, je le rappelle, romains d'Orient et d'Occident. Si l'Europe semble bien s'ajuster à la description de Rome qu'en fait Daniel, avec ses alliances, etc., et en particulier donc vraiment ses expressions, il me semble qu'il ne pourrait s'agir que d'un seul pied de la statue. Alors, peut-on essayer de discerner l'autre pied ? Et là, c'est une réflexion que j'ai eue il n'y a pas si longtemps, donc voilà, c'est un partage que je vous livre aussi. En 1990, à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Europe, tenue à Rome, avec l'objectif d'engager un processus de coopération en Méditerranée occidentale entre 10 pays du pourtour méditerranéen, il a été créé, donc en 1990, ce qui a été appelé le dialogue 5-5. 5 plus 5. Vous allez comprendre. L'année suivante, à Alger, s'est produit ou s'est poursuivi la mise en place de ce dialogue 5-5, qui est le plus ancien cadre de rencontre entre pays du bassin méditerranéen. Depuis 1991, une quinzaine de conférences se sont déroulées sous le 5-5. Cette initiative a eu lieu donc dans un contexte changeant où la création de l'Union du Maghreb arabe et l'évolution de la communauté européenne encouragea fortement le dialogue politique entre les acteurs des deux régions, le sud et le nord de la Méditerranée. Cela fut perçu comme une opportunité pour élargir la coopération et traiter des sujets conjointement sur une base régulière. Quelques années plus tôt, le 30 novembre 1987, le président François Mitterrand inaugure l'Institut du monde arabe à Paris. Celui-ci a pour but d'améliorer les relations diplomatiques entre la France en particulier et les pays arabes et faire connaître, ou mieux connaître, au public français, mais aussi européen, l'apport du monde arabe, la civilisation universelle et de promouvoir le dialogue entre le monde arabe et l'Occident. Le peuple arabe, ce sont les descendants d'Ismaël, de la servante de Sarah, femme d'Abraham, demi-frère donc d'Isaac, Israël. Dieu fait une promesse à Abraham en lui disant « En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé, je te bénirai, je le ferai proliférer, je le multiplierai considérablement, il aura pour fils 12 princes et je ferai de lui une grande nation. » Après quelque temps, cette prophétie, Abraham, sur la demande de Sarah, sa femme, chasse Agar, la servante, quand Isaac est né. Et Dieu dit, enfin l'Écriture dit plutôt, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et la plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis, à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? » « N'aie pas peur, Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant, tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Promesse de Dieu donc faite à Ismaël et ses descendants, qui ne consiste pas, contrairement aux promesses faites à Abraham pour Isaac, à avoir un pays et une multitude. Pour Ismaël, c'est une multitude, mais pas de pays. Sous-entendu, débrouille-toi. Vous allez partir vers l'Arabie Saoudite, et c'est ce qu'elle a fait Agar après, et de l'Arabie Saoudite, ils se sont propagés, bien évidemment, sur ces contrées, parce qu'ils sont devenus innombrables. Ils sont près de 180 millions aujourd'hui, descendants d'Ismaël. Vous noterez que la Ligue arabe, c'est-à-dire les descendants d'Ismaël, est implantée sur le pourtour sud de la Méditerranée, lequel fut déjà pris en compte en 1957 lors de la signature du traité de Rome. Il était écrit « Depuis les origines de la Constitution européenne, la Méditerranée a toujours été présente en raison des liens particuliers qu'elle avait noués avec certains pays européens, surtout la France. Le traité de Rome prévoit l'établissement, donc déjà en 1957, d'accords, d'associations avec certains pays de la rive sud de la Méditerranée, des pays indépendants de la zone monétaire de l'euro. La dimension méditerranéenne fait donc partie intégrante de l'identité originale du processus d'intégration européenne. » C'est une citation du dialogue méditerranéen processus donné à Barcelone. Cette Ligue arabe pourrait bien être, à mon sens, mais ça n'engage que moi, l'autre pied de la statue. Elle comprend 22 membres, n'a jamais caché certains pays plus que d'autres son intention de voir Israël, Isaac et ses descendants disparaître. Certains d'entre eux, comme d'ailleurs l'armée égyptienne du président à l'époque d'Anwar el-Sadat, alliée à l'armée syrienne de Hafez el-Assad, n'ont-ils pas lancé une offensive contre Israël en 1973, appelée la guerre du Yom Kippour, et qui était là pour, quelque part, se venger de l'affront qu'ils avaient eu lorsque Israël a pris Jérusalem-Est en 1967. Mais ils se sont fait massacrer, repoussés par Israël, qui était surpris le jour du Kippour à avoir une guerre sur eux. Mais Dieu a travaillé et a opéré pour eux, comme au temps de David et de Salomon, etc. Et a repoussé ses ennemis qui voulaient les exterminer une fois pour toutes. Aujourd'hui, le dialogue 5-5 est composé de ces 10 pays suivants. Italie, France, Espagne, Portugal et Malte pour la rive nord de la Méditerranée. Et 5 pays de l'Union du Maghreb pour l'autre rive, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Vous noterez que ces pays, à part la Mauritanie, qui se trouve un peu plus en deçà du pourtour géographique de la Méditerranée, nous rappellent l'ancien empire de Rome, lequel était une mosaïque de peuples divers autour de cette mer intérieure. Ils appelaient bien leur mer Mare Nostrum, notre mer. C'était bien ce que disait Rome. Elle est à nous puisque nous l'envahissons et nous en sommes tout autour. Nous la possédons. Tout ceci ne nous ferait-il pas penser au pied de la statue et en particulier à ses 10 orteils? Je m'interroge. Je nous interroge. Vous me direz, et je vais vous donner la même réponse peut-être que tout à l'heure, mais il n'y a pas que Rome, il n'y a pas que l'Europe aujourd'hui, il n'y a pas que le Maghreb aujourd'hui comme pays, il y en a d'autres, il y a la Chine, il y a le Japon, il y a les États-Unis, oui, c'est vrai. Tout comme au temps de Nebuchadnezzar, il y avait aussi d'autres pays, d'autres peuples qui étaient là. Et Dieu a choisi Nebuchadnezzar, comme Dieu choisit Rome, que nous essayons d'identifier, en espérant aller dans le bon sens. Mais peut-être que vous direz dans quelques années, Travier, il avait pété un câble, hein. C'était n'importe quoi. Mais je dirais, tant pis ou tant mieux. Au jour d'aujourd'hui, la réflexion, elle est là. Demain, elle va évoluer. Comme d'ailleurs le texte que je vais partager demain après-midi sur Babylone en particulier. Pour moi, ça fait 20 ans que j'y travaille sur ce texte. Il évolue. Mais pour moi, il a évolué, mais pas dans le sens où il a fallu changer. Au contraire, il s'est fortifié, il s'est solidifié, mais en rajoutant des choses. Comme là, nous allons certainement devoir rajouter au fur et à mesure des choses, si le Seigneur n'est pas revenu avant. Mais, encore une fois, vous savez, dans le contexte économique qui est tellement, et j'en parlerai demain après-midi, lié entre les pays, quand un pays ou quand des Nations Unies, je ne parle pas des États-Unis, mais des nations qui sont unies, peuvent avoir des problèmes économiques, c'est un peu des effets dominos au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que cela ne m'étonne pas, ne me surprend pas, que l'Europe joue un rôle, et jouera peut-être un rôle important, dans la chute même du monde. Et peut-être même dans l'apparition de certaines choses qui vont amener ce monde à son déclin. Peut-être. Ça ne doit pas nous surprendre, mais nous devons rester, bien évidemment, en éveil. Alors, je vais conclure quand même, parce que, ça fait un petit bond, mais j'espère que j'ai été clair dans ce que j'ai essayé de partager. Je pense à ce texte encore de l'Écriture. Ô Dieu, Ah, il faut qu'il arrive. Voilà. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas, ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, comme ça a été fait en 75, enfin en 73, essayez d'être fait, qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi, les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gigal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, la Syrie aussi se joint à eux, elle prête son bras aux enfants de Lot. Prophétie. Et je vous fais remarquer dans cette prophétie, la première alliance qui est nommée, les tentes d'Édom et Ismaël. Édom. Le temps manque pour l'expliquer ou le développer. J'ai dû faire des choix au niveau du timing. Édom et l'Europe. Alors, vous dire, c'est un peu bout de décoffrage comme ça, mais c'est pas la petite Édom qui est... Non, quand des textes sont après la destruction d'Édom, qui n'existe plus, hein, rapidement, a été vite exterminé, ça concerne autre chose. Et il y a une explication là-dessus, mais je vais pas en parler. En tout cas... Voilà, il y a en tout cas Ismaël, Édom, si c'est le cas, en tout cas, on est vraiment encore dans le cadre de notre pied de statut ici-là. Oui, des alliances tout azimuts, dit ce psaume, afin d'anéantir Israël. Et là, on y voit encore une fois la puissance de Satan. Qui sait qu'Israël a un avenir? Qui sait qu'Israël est le peuple de Dieu? Qui sait qu'Israël va être relevé? C'est ce que dit Zacharie. Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Et ça va venir. Mais Israël sera délivré par un miracle. Par l'intervention de Dieu lui-même, et c'est peut-être à ce moment-là, mais ça j'en sais rien du tout, j'ai pas bien réfléchi à ça, que cette pierre va tomber peut-être, et venir pour installer son royaume, je sais pas. Au niveau de la chronologie, je peux pas l'affirmer. Alors je voudrais citer encore René Pache, qui a dit dans cet écrit intitulé « Les événements actuels annoncent-ils le retour de Christ ?» Il a écrit le fait que le peuple juif ait résisté à plus de 2600 ans de dispersion, de persécution, est un véritable miracle. Tous les grands peuples ou les peuples de l'Antiquité ont disparu. Égyptiens, Assyriens, et là on commence par la statue, Babyloniens, Perses, Grecs, Romains, de l'époque impériale, mais pas encore, vous l'avez vu, Rome est là. Israël seul existe encore, parce que Dieu a promis de le faire subsister jusqu'à ce qu'il soit converti et restauré au retour de Christ. Jérémie chapitre 1 verset 12 dit « Je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit ». Voilà à quel Dieu nous avons affaire. J'espère que nous le comprenons, que nous le saisissons. Et que nous le laissons bien évidemment dans cette souveraineté. Et si nous ne comprenons pas tout, bien évidemment, c'est pas grave. Essayons de réfléchir ce que nous avons essayé de faire, n'est-ce pas? Vous comprenez pourquoi tout à l'heure je vous disais que j'étais plus dans le registre de l'examen, hein, de comprendre et de voir ce que l'on peut saisir, en quel temps nous sommes. Et peut-être que, effectivement, ce qui a été dit montre que nous sommes dans un temps qui avance très, très vite. Et je n'ai pas encore fait allusion à la pandémie, mais c'est sûr qu'il y a des choses aussi derrière qui peuvent être cachées et qui nous seront révélées à n'en pas douter. Voilà, je vous invite simplement à prier encore et pour conclure en tout cas ce temps de partage. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissant de prendre ce temps, c'est vrai, de pouvoir prendre ta parole et essayer à travers ces textes et ce que nous vivons ici en temps et en heure sur cette terre, de faire des liens. Seigneur, garde-nous de l'orgueil, garde-nous de croire ou de penser que nous saurions tout, que nous souhaiterions tout savoir et tout connaître. Non, Seigneur, mais nous voulons réfléchir, nous voulons comprendre ce que nous pouvons comprendre, ce que l'Esprit peut nous donner de comprendre. Merci en tout cas, Seigneur, parce que ce monde avance, il avance vite vers son dénouement. Le ciel et la terre passeront, tu l'as dit, on l'a rappelé, mais ce que tu as dit restera, demeurera, jusque dans l'éternité. Tu es un grand Dieu, Seigneur. Aide-nous, fortifie-nous, et permets que nous aimions ta parole, Seigneur, que nous en devenions des gourmands même, pour que nous sachions discerner ces temps, et en même temps y recevoir la force, la nourriture, pour que nous soyons debout, persévérants, le jour où tu apparaîtras. Que ton nom soit loué en Jésus-Christ, auquel nous pouvons dire « Viens bientôt, nous t'attendons ». Amen.